Alors, bonsoir. Enquête de cinéma sur Radio Galère 88.4 pour une émission de cinéma autour de Buanani, son cinéma, autour aussi du cinéma marocain, autour de plein de choses que vous découvrirez au fur et à mesure. Nous sommes avec Wahib Mortada.
Bonjour. Voilà cette émission. Aujourd'hui, on est sur la rue Consola, en présence de Touda Bouanani, la fille de Si Ahmed Bouanani, et de Si Ahmed Bouraba, critique, journaliste. Pour rappeler un peu le contexte, cette année, dans le festival à Flamme, il y a toute une rétrospective des films de Ahmed Bouanani. Durant 3 jours, on va assister à toute la panoplie des films mythiques que ce cinéaste a réalisés au cours de sa vie, et mais également, je pense, avec la présence de Touda, il y aura des discussions assez intéressante pour les gens qui ne connaissent pas cet auteur, ni le travail du réalisateur qu'il était. Et je laisse la parole à Touda en premier pour se présenter.
Bonjour, je m'appelle Touda Bouanani. Je suis artiste et vidéaste. Mais depuis la mort de mon père, je m'occupe beaucoup de faire connaître et faire reconnaître son travail, qui a, de son vivant, été absent, un peu effacé, et qui, depuis quelques années, commence à apparaître. Excusez-moi d'être si brève pour le début.
Non, c'est très bien, c'est la présentation.
Ahmed Bouraba, journaliste et critique de cinéma. Moi, je suis de la génération qui connaît Ahmed Bouanani depuis pas mal de longtemps, et sa femme surtout. C'est parce que souvent, quand on parle, pour moi, quand je parle d'Ahmed, je parle de Naïma. C'est un couple ensemble qui ont fait le cinéma ensemble. Pour moi, ils sont les deux. Maintenant, aussi, ces dernières années, apparaît Touda, que j'ai entendu parler de Touda, mais je l'ai rencontré que les dernières années. Donc je découvre aussi une artiste. Donc c'est une famille d'artistes. Et j'ai des relations intimes avec cette famille à travers le cousin de Touda.
L'oncle.
Ouais. Et le frère de Naïma. Donc, et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Touda quand il dit que son père était effacé. Jamais. Pour moi, il était omniprésent dans le cinéma marocain, était un pionnier du cinéma marocain. C'est lui qui a choisi de se retirer à un moment pour des réflexions, mais toujours, il y avait des hommages, il y avait des livres collectifs dont je suis heureux de participer. Peut-être pour la nouvelle génération, les jeunes qui n'ont pas pu voir les films, parce que nous, au Maroc, on a un grand problème de diffusion de films. et on n'a pas la cinémathèque. Donc même les écoles de cinéma qui sont apparues durant les années 90, on ne montre pas ces films aux jeunes. Mais pour moi, Bouanani n'est pas effacé, était toujours présent, omniprésent dans le cinéma marocain. On ne peut pas parler du cinéma marocain sans parler d'Ahmed Bouanani.
D'effacer juste pour qu'on, pour toi, parce que tu as dit ça, tu nous dis que tu n'es pas d'accord, mais moi j'aimerais comprendre un peu plus ce que toi tu entends par là.
Je dirais par exemple, là dans le... Je reviens en fait à la situation du festival. Le premier film qui a été présenté hier, c'est le film de Ali Safi, En quête de la septième porte, sur et avec mon père, Ahmed Bouanani. Avec des entretiens, des archives, des extraits de films. Quand on a rencontré Ali Safi en 2007, mon père lui-même n'avait pas vu ses propres films depuis des années. Moi, je n'avais jamais vu 6 et 12, un de ses films. Les quatre sources étaient apparues en 1977. Après, je ne l'avais jamais revu. Donc c'est de cela en fait, il y avait vraiment, mais bon, comme il disait, effectivement le problème de distribution, le problème de salle de cinéma, le problème de visibilité du cinéma marocain au Maroc est très problématique. Et du coup en fait il n'y a pas de visibilité. Et après pour ses écrits, que ce soit l'hôpital ou les persiennes.
Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
Zidou salli wa annabi. Hello, wadhnikum. اسمعوني مليح رايح حكايه البي اللي بنا سرايا بفلوس لولايا والهطايا يا ناس نبدا بسم الله احديثنا قياس
وش حسيره تعفس عليها qu'ils étaient pas beaucoup montrés mais toi quand tu
non,
dis qu'il
était... il a travaillé après, c'est-à-dire Ahmed Bouanani s'est pas arrêté au Mirage. Il a travaillé, il a écrit des scénarios pour d'autres, il a encadré d'autres réalisateurs, il a écrit pour Dawood, il a encadré d'autres jeunes. Donc Ahmed Bouanani n'est jamais arrêté de faire le cinéma. Et il n'a pas fait de films, mais il les a fait. Quand je vois les chevaux de Dawood Vlad Seyed, c'est Bouanani. Un scénario parce que il était derrière. On voit le film, on voit une sorte de continuité de Mirage en couleur. C'est-à-dire la façon de que les acteurs sont habillés, les décors, les dialogues. C'est Bouanani pour moi. Pour moi, je pourrais dire. Mais excusez, Dawood Vlad Seyed, il peut en entendre à travers l'Internet. Lui était un réalisateur exécutif, si je pourrais dire entre guillemets. Voilà. Donc, il était toujours présent pour moi, Ahmed Bouanani. Et d'ailleurs, à travers ses écrits, l'Opéta, c'était un événement. Un cinéaste qui écrit un roman qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais il y a du cinéma dans le livre. Voilà. Donc, moi, toujours, il existe. Et je suis très heureux qu'il existe encore plus maintenant, grâce à Touda.
Touda, vous ressemblez beaucoup à votre... cher papa.
C'est sûr que vous avez été certainement affecté par son départ. Mais comme dit le dicton chez nous, et comme il l'a bien souligné Si Ahmed Bouraba, derrière un homme ou après un homme, il y a toujours une femme. Parlez-nous un peu de votre maman, Naïma, parce que c'était vraiment un duo, votre papa et votre maman, qui dans la discrétion, on le sent. On le sent qu'il y a une intimité, même à travers les photogrammes qu'on a découverts dans le film, qu'on découvre petit à petit cette intimité, cet amour qu'il y a entre votre père et votre mère, qui était chef décorateur, assistant, technicien, elle était partout. Et il le dit bien dans l'interview avec Ali Safi. Parlez-nous un peu de Naïma dont personne ne parle ou peu de gens parlent.
Alors, Naïma, ma maman, qui est aussi disparue le 28 décembre 2012, un an et demi après la mort de mon père, ils étaient vraiment très liés par l'amour et la passion du cinéma. Il y avait à la maison toujours une effervescence autour de... surtout du cinéma, parce que la littérature, disons, est plus solitaire. Il y avait souvent beaucoup de monde. Et c'est ma mère toujours qui attirait, qui organisait aussi, et qui était aussi très, on va dire, conviviale, accueillante, énergique. Et... elle a travaillé aussi, elle a traversé... C'est vrai que mon père, malgré sa discrétion, j'ai peut-être employé un mauvais terme, est présent au cours de la cinématographie marocaine à divers niveaux, que ce soit au niveau du scénario ou au niveau du montage. Et maman, elle, est présente aussi énormément dans toute la filmographie marocaine, avec d'ailleurs Daoud... avec le décor, les costumes ou le maquillage. En fait, elle a eu une vaste pratique, surtout en fait parce qu'il n'y a pas, disons, d'école technique au niveau cinématographique qu'on accorde. Disons, on va... Il y a des réalisateurs, il y a plus de réalisateurs, il y aurait plus de réalisateurs que de costumiers, que d'ingénieurs du son, que les autres professions cinématographiques qui sont nécessaires pour faire un film. Et ceux-là n'ont pas de visibilité, mais ceux-là sont ceux qui fabriquent.
كيف وجدتم باريس؟
بابا 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 ملا دنيا ملا فيها كل ما تطلب الذهب يا شيخ الجوهر الزريخ النحاس وعندهم يا شيخ خيط كيف التل يسميه التليغراف
Aussi nombreuses que les brins que je file sont mes peines, et aussi longues que le fil que déroulent mes doigts. Ma vie durera ce que dure une quenouillée pleine, car mon cœur est aussi entouré de douleurs qu'une quenouille est gonflée de laine.
Comment elle a... Moi, ça m'amène à avoir envie de poser la question de comment ça a commencé tout ça, cette rencontre, cette passion, cet apprentissage, puisqu'il n'y avait pas d'école. Comment ils ont... Comment ça, ouais.
Alors, mon père, lui, il avait fait l'IDEC à Paris. de 61 à 63 en sélection script montage. Ma mère, par contre, n'a pas fait d'études cinématographiques. Il s'était rencontré, d'ailleurs, à son retour de l'IDEC en 63. C'était une amie de sa sœur, en fait. Donc, elle connaissait la famille depuis longtemps, puisqu'ils étaient enfants à l'école, ensemble. Mais par contre, elle a rencontré mon père à son retour de l'IDEC. Et je crois que ça avait été un coup de foudre et que depuis, ils se sont plus séparés. Et je crois que c'était la passion. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est vraiment la passion autour du cinéma. Ça a été vraiment quelque chose qui les a liés. Papa a transmis sa passion du cinéma à ma mère. Et ma mère était quelqu'un d'entreprenant, de courageux, de déterminé. Je me souviens que pendant les tournages, elle dormait très très peu. Et par contre, après, quand les tournages étaient terminés, elle pouvait passer mais vraiment des jours à dormir. Elle rattrapait, elle concentrait le sommeil sur des jours après le tournage. Et ce qui était particulier aussi, c'est quand on avait 10 ans, en fait après le Mirage en 81, ma mère a eu est allée travailler dans les tournages étrangers, principalement américains ou italiens, dans le sud, et elle a commencé à beaucoup voyager au Maroc, et c'était une situation très particulière. D'avoir sa mère qui part très longtemps. ou d'ailleurs même pour des films marocains, par exemple avec Souhaïl Ben Barka, pour La bataille des Trois Rois. Ils avaient fait le tournage en URSS à l'époque. Et elle était partie 6 mois. Et c'était assez singulier comme situation.
Et toi, Ahmed, comment tu rencontres toute cette histoire?
Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec Wahib pour qu'il dise que chaque homme y a derrière une femme. C'est ce dicton, pour moi, ça ne marche pas. Et surtout avec Ahmed et Naïma. C'est un couple ensemble. Ils étaient ensemble. Unité. Ils travaillent ensemble. Donc, c'est pas que... Naïma n'était pas à la service d'Ahmed, ni Ahmed était un caïd sur Naïma. Ils étaient ensemble, ils discutent. Leur vie, c'est le cinéma, dans le tournage et dans la vie, dans la maison. Ils partent cinéma, ils voient les films ensemble, ils s'entraident. Donc, pour moi, il n'y a pas...
Voilà. Ça fait penser un peu à Strobéuillet.
Voilà, histoire. C'est pour ça, moi, c'est un couple uni, uni pour moi. Entre parenthèses, moi, j'étais en prison en tant que gauchiste. J'ai passé 12 ans. Et avec moi, il y avait Nourdine Saoudi. Nourdine Saoudi, c'est le frère de Naïma. Donc, de Touda. Et moi qui venais du ciné-club, j'étais responsable, donc je suis resté toujours dans le cinéma. Et à l'époque, le ciné-club, c'était presque des sectes de politique, quoi. Donc, on parle cinéma politique.
Ça, c'est les années 70.
Oui, 70. Donc. Alors, mais bien sûr, tous mes camarades, ils connaissent que je suis un cinéphile. Donc, je parle avec Nordine, et quand il vient Naïma au parloir, surtout après on avait la visite directe. Parce qu'auparavant, on n'avait pas la visite directe, c'était à travers les barreaux. Après, visite directe. C'était le moment, je sortais, je parlais avec Naïma, il me donne ce qui se passe dans le cinéma marocain, du tournage. Mais parce qu'en même temps, j'étais en relation avec Sahel, j'étais en relation avec pas mal de personnes. Donc voilà. Et quand je suis sorti de la prison, évidemment, je suis allé à la recherche des cinéastes marocains pour les rencontrer. Parce qu'il y avait pour moi une coupure de 12 ans. Et voilà, c'était pas... virtuel, j'avais la relation avec le cinéma, mais je voulais la mettre en vrai. Donc j'avais une liste que j'ai rencontrée, Ahmed Bouhnani, Rgab, Tazi, Latif Lehlo. Donc je les ai rencontrés, je les ai interviewés. Bien sûr, il y en a ceux qui ont accepté, non, parce que à ce moment-là, je faisais peur. Entre guillemets, parce que... Bon, alors moi, cette rencontre, c'était un moment agréable de rencontrer Ahmed Bouhnani et de parler des anciens films que j'ai déjà vus. Donc, c'était un moment formidable. C'est à Rabat. C'est toujours à Rabat, à Hassan. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais cette rencontre. J'ai admiré l'homme, j'ai admiré la femme, donc je suis resté en relation. Mais bien sûr, quand Ahmed s'est retiré à l'Atlas, après des années, je suis allé le voir. Parce qu'au début, ne voir personne, mais moi, après, je suis allé le voir, j'ai fait une interview. Malheureusement, la personne, le réalisateur qui devait monter le film, n'a pas fait, il a tardé. Voilà, donc je suis resté toujours en contact avec Ahmed et Naïma. Je me déplace parfois à une autre ville, à plus de 400 km, pour les voir, pour les rencontrer, soit à Rachidia, soit à Tanger, soit à Agadir. Et voilà, c'est cet amour-là qui me pousse à aller les voir. Parce que je croyais à ces réalisateurs. Parce qu'à ce moment-là, j'ai fait deux listes. Il y a des réalisateurs avec qui je ne m'entends rien du tout, mais il y a des réalisateurs avec qui je partage des idées. Et voilà, et c'est comme ça que s'est faite cette relation admirable avec Ahmed Bouhnani et la famille Bouhnani.
Mais alors juste pour nos auditeurs un peu, pour leur donner quelques éléments, c'est-à-dire que donc Bouhnani fait le Mirage en 80, et vous avez tous les deux parlé de la question qui se retire, donc, c'est-à-dire qui fait l'IDEC ensuite, il fait le Mirage, et après, c'est après qu'il se retire. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question de « il se retire », de qu'est-ce que ça sous-entend, pourquoi, ou qu'est-ce qui se passe, hein, pour qu'un peu on puisse donner aux auditeurs une idée de...
Si tu t'inquiètes pour en parler mieux.
Oui, retrait, disons, il n'y a pas de retrait au sens propre du terme. Il y a un dernier long métrage, ça c'est clair, c'est le... En 80, il fait son dernier long métrage en son propre nom. Après, il fait soit scénario, soit montage, par contre, qu'il fera jusqu'en 1998. Et après, il continue, donc je disais, des scénarios, des montages, et bien sûr l'écriture, dont on a moins parlé jusque-là, mais il écrit jusqu'à la fin de sa vie. Le retrait, sinon, disons... physique et réel, c'est en 2003, j'ai perdu ma petite sœur qui est décédée, et à ce moment-là, il décide de quitter la ville de Rabat et d'aller dans une maison qu'on avait à la campagne, à 400 km de Rabat.
D'accord,
en 2003. Oui, parce que Ahmed Bouhnani est quelqu'un de très sensible et qui aime sa famille, aime ses filles. Donc, c'était vraiment un choc pour lui. Et, Et comme il a dit Tchouda, c'est un retrait qui était seulement un retrait physique, mais il est resté toujours dans le cinéma. Il a encadré, comme je disais tout à l'heure, il a écrit des scénarios, et il a rencontré des gens en allant le voir. Donc, il était toujours présent, Ahmed Mouanani. J'aime bien ce mot, retrait physique, et pas culturel ou artistique. Ça, je l'aime bien. Bah, tout ça, c'est dit dans le film de Ali Safi, La Septième Porte. Et La Septième Porte, bien sûr, c'est un livre intéressant que j'ai pas de nouvelles de ce livre, que j'ai jamais lu. Aucun extrait. J'ai entendu quelques extraits, mais j'attends avec patience ce livre, parce que pour moi, c'est quelque chose de. Ça serait un héritage de Bouanani extraordinaire, parce que c'est l'histoire du cinéma de protectorat jusqu'aux années 80. 86. Donc c'est vraiment, ça serait un retour de force avec ce livre. Et ce livre, c'est Tchouda qui pourrait vous parler, parce qu'on a travaillé après que le livre ait été des manuscrits brûlés, d'autres perdus. Donc moi, j'ai suivi de loin ce qui se faisait sur ce livre. Bravo pour Tchouda, c'est vraiment, et pour moi ça serait un honneur d'avoir une copie de ce livre chez moi, et je remercie beaucoup Tchouda, et c'était qui pourrait vous parler du livre.
Alors le livre, alors c'est pas un livre encore, c'est un manuscrit. Alors il y a eu un événement, il y a eu deux événements qui ont marqué papa à la fin de sa vie. Donc, 2003, la mort de ma sœur, et en 2006, l'appartement dans lequel on a toujours vécu à Rabat a brûlé en partie. Et donc, il y a une partie de notre maison qui a brûlé, notre appartement. Ce qui a été sauvé a été aussi mouillé. Qu'est-ce qu'il y a eu les pompiers après. Donc, gros dégâts. Et donc, mes parents étaient retirés à la campagne à ce moment-là. Mon père n'a plus jamais remis les pieds dans cet appartement à Rabat. Depuis 2003, il a quitté définitivement. Et donc, quand il a su que l'appartement avait brûlé, ça a été terrible. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point ça avait été terrible quand j'ai découvert toute la quantité de manuscrits que j'ignorais. Parce qu'en fait, on avait une grande complicité littéraire, on parlait beaucoup de ses écrits. Et puis, comme disait Ahmed tout à l'heure, il y avait effectivement une grande complicité à la maison autour des activités qu'avaient mes parents. Et mon père écrivait, lui, toujours à la main, avec son papier et son stylo. Et à l'époque, c'était encore les machines à écrire. On tapait les manuscrits avec la machine à écrire. Donc, il y avait un certain nombre de manuscrits que je connaissais, dont d'ailleurs celui de la Septième Porte, auquel toute la famille a contribué. Je n'ai pas parlé aussi du fait que ma sœur aussi travaillait dans le cinéma. Elle était costumière. Donc, il y avait toute une activité vraiment très, très énergique autour du cinéma à la maison. Donc, dans cet appartement qui a brûlé, au début, on a vraiment pensé que tout avait disparu. Et comment dire, donc, comme mes parents habitaient à la campagne, on a mis vraiment beaucoup de temps à déblayer. En plus, dans cet appartement, il y avait beaucoup de choses. Alors, les livres, d'une part, les costumes, donc les décors, comme ma mère travaillait dans les décors, les costumes. Il y avait aussi beaucoup de tissus. Enfin, c'est un appartement de 3 pièces, mais vraiment très, très plein. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappée, quand on a fait les travaux, déblayer ce qui était brûlé, ce qui ne l'était pas, c'est la quantité de choses qui restaient. Je me suis dit, mais comment tout ça rentrait dans cet appartement? Et la consigne de ma mère, c'était ne rien jeter, même ce qui était abîmé, surtout les papiers. Et c'est qu'en fait, à partir de 2011, 2012, après la mort de mon père, je vivais en France, je suis retournée vivre au Maroc avec ma mère, que je ne voulais pas laisser seule. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à déblayer les cartons, les manuscrits, à essayer de reclasser tout ça. Et là, j'ai découvert une quantité incroyable de manuscrits dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc là, je me suis rendu compte l'ampleur du travail, l'ampleur de l'écriture et de la présence de l'écriture chez mon père. Et donc là, ça tient porte, cette fameuse « ça tient porte », dont on était déjà au courant parce que il a écrit sur un certain nombre d'années. Comme c'était un travail de recherche sur le cinéma, il a aussi demandé la contribution des cinéastes avec je sais pas, les brochures, pas tout ce qui concernait leur film. Il a demandé aussi les biographies, des éléments qui permettent de nourrir sa recherche. Et au départ, en fait, j'avais pensé qu'il y avait deux manuscrits. Il y avait des incohérences au niveau des pages. Heureusement, d'ailleurs, il y a une chose extraordinaire. Je remercie beaucoup papa. Il numérotait toujours les pages. Heureusement, parce que j'étais désespérée. J'avais des milliers de pages et je ne comprenais pas la numérotation. Et en fait, il s'avère, d'ailleurs, avec Alice, sa fille, qu'on est allé chez lui, du coup, pour qu'il y ait un autre espace, puisque dans l'espace dans lequel j'étais, il y avait d'autres manuscrits. On l'a séparé, l'amenant même dans un autre espace, sur une grande table. Et là, il s'est avéré qu'il y avait un manuscrit d'une autre écriture. Et finalement, c'est qu'après qu'on a découvert qu'il y avait trois sommaires. Et heureusement, la découverte des sommaires est une chose extraordinaire, parce que, ça permet de reconstituer enfin, les manuscrits. Et donc, cette histoire du cinéma au Maroc, qui s'appelle donc La Septième Porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986, retrace d'une part l'histoire du cinéma, mais aussi avec des chronologies liées d'une part à la politique, aux événements politiques en Afrique et dans le monde arabe, et aussi dans le cinéma, en Tunisie aussi, en Algérie et en Égypte. Et que dire d'autre?
Il en est où ce travail alors?
Alors, donc maintenant, on a une maison d'édition avec qui je travaille, avec qui nous travaillons, parce que nous sommes un certain nombre. Les éditions cultes à Rabat, qui est une maison d'édition qui existe depuis 2005, qui édite des livres d'art. Et avec donc Alice Safi, Omar Barada, Marie-Pierre Boutier, qui est chercheuse, qui a beaucoup travaillé dans la transcription du manuscrit aussi. Et Yasmine Anagi de Culte, Madeleine de Colnay qui a travaillé aux éditions et qui a beaucoup aidé à la maison aussi pour l'iconographie, parce qu'en fait il fallait aussi, enfin papa prévoyait une iconographie d'une cinquantaine de pages pour accompagner cet ouvrage, et là aussi il a fallu à nouveau trier les photos. Et ça, c'était quelque chose d'assez redoutable, parce que les photos, par contre, c'est mélangé avec des photos de famille ou des choses comme ça. Ça, c'est assez dur, émotionnellement. toute cette matière était très difficile. Parfois, je disais, bon, moi, par contre, j'ai besoin d'arrêter, là. J'ai besoin de sortir.
Thank you.
Ahmed Bouhanani écrivait toujours. Toujours écrivait. Donc c'est pas, il commence à écrire, il n'a pas écrit que le scénario, il n'a pas écrit que ce livre, ou le roman, ou les poèmes, et il écrivait toujours. D'ailleurs, il était dans le comité de rédaction de la revue Souffle. Et il a écrit sur... alors on n'avait pas de cinéma en 68, 69, on n'avait presque rien, on n'avait pas de cinéma. Mais lui, il a créé un débat sur le cinéma national. Est-ce que quel cinéma qu'on veut? Donc, il a posé pas mal de questions de la revue Souffle. Il a rédigé pas mal d'articles dans cette revue qui était dirigée par Abdelatif Fellahbi, qui est très connu ici en France en tant que poète et aussi en tant qu'ancien détenu politique. Donc, pour dire que, pour moi, Ahmed Bouhanani écrivait toujours. Quand il trouve un moment, dans un café-bar, chez lui, il écrivait toujours. Donc, pour moi, c'est un réalisateur, monteur, dessinateur, artiste, écrivain. Donc, c'est quelqu'un qui fait tout. Je le trouve, je peux le comparer au réalisateur russe Paradanov, parce que Paradanov c'est la même chose, il fait parce qu'il était opprimé chez lui dans son pied, donc il a cherché tout le temps à trouver des moyens de s'exprimer. Si on lui interdit un film, il crée une installation. Si on lui interdit cette installation, et fait des dessins, des romans, des conférences. Donc, paradoxalement, et Ahmed Bouhanani. Sauf que les deux situations sont différentes. C'est que, paradoxalement, il a eu un public qui le soutenait, qui le réclame tout le temps, alors qu'Ahmed Bouhanani, chez nous au Maroc, c'est presque chacun pour soi. C'est pour ça que, voilà, pour dire que Bouhanani est aussi écrivain.
Mais alors là justement par rapport au travail qu'a fait Bouhanani, ses films, ses écrits, donc ça commence dans les années 60 à peu près, comment c'est reçu au Maroc ou à cette époque dans un contexte politique particulier, ou comment ces choses-là s'articulent, la difficulté qu'il a à faire les choses? Le contexte politique, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire à cet endroit-là?
Oui, pour moi, Bouhanani, il est toujours de gauche.
Il n'a jamais appartenu à un parti politique.
Non, jamais. Il n'est jamais né parti de l'organisation, mais il a fait la politique à sa façon. Donc, il s'est bien sorti. Mais quand même, il est considéré partout à quelqu'un de gauche, avec ses idées, ses questions qu'il pose au futur du Maroc, sur l'histoire du Maroc, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes au CCM, où il était fonctionnaire au CCM, en tant que monteur. Donc, on n'a pas parlé beaucoup de film de Mémoire 14. C'est un film, pour moi, c'est extraordinaire. C'est le film que j'adore, que j'ai revu, que je le connais par cœur, ce film. Et je vous dirais que je l'ai vu en VHS en prison. Donc,
oui.
Ouais.
Ça alors.
C'est grâce à ta mère. Ouais. Ah. Parce que nous, on avait le droit en cachette, mais il ne faut pas être exposé. On pourrait voir des films après. Ils nous ont laissé voir la télé et tout ça. Donc, malgré cette copie qui n'était pas bonne en VHS, mais quand même pour moi, je suis resté avec mes amis là-bas. On a vu d'autres films. Et je disais que la Mémoire 14, il a eu un énorme problème avec le directeur de l'époque, Omar Ghanem.
Directeur du
CCM, du Centre cinématographique marocain. C'est une institution d'État. Donc, toujours le directeur jusqu'à la dernière année, mais toujours le directeur est désigné par Mdahel, par le roi. Donc il a une situation très, très spéciale. Et moi, j'ai considéré tous les jusqu'à Souhaïm Malka, ce sont les conservateurs de l'État au CCM. Donc, parce que le cinéma fait peur. Et surtout le documentaire chez nous, au Maroc. Le documentaire, c'est nouveau. Donc, Ahmed Mouanani suffit l'histoire avec Mémoire 14 que cette expérience, il mérite tout un film.
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce film en soi, déjà, pour qu'on... Mémoire 14,
c'est... Mémoire 14, c'est un film qui raconte l'histoire du Maroc, justement, de protectorat jusqu'à l'indépendance. Et voilà l'intelligence de Ahmed Bouanani. Après, il a repris les mêmes idées dans le livre. Tu vois, pour, seulement, dans le livre, c'est le cinéma, mais en même temps, il fait des références à l'histoire, je crois, n'est-ce pas, Judas. Et Mémoire 14, c'est un film de CCM, produit par le CCM. Le directeur de production, c'est le directeur du CCM, Omar Redlem. Donc, il est suivi partout. Quand il a fait un film qui devait être un film de 1h30, le film il devenait après 28 minutes. À force de couper, et Ahmed Mouanani disait que grâce au montage, il a su comment dérouler ou déraper la censure. Et à la fin, ce film, il est fait. Même en 28 minutes, on a l'idée de ce qui s'est passé dans l'histoire du Maroc. L'intelligence, c'est qu'il a travaillé avec les archives de colonisateurs de la France. Donc, comment il a traduit ces archives, comment il les a repérées, récupérées aussi, il a fait un film marocain avec un esprit critique. Comment ils nous filmaient, les colonisateurs, et comment lui, il a pu présenter cette richesse d'archives pour qu'il soit de notre patrimoine.
A été créé en 1944, au moment où il y avait un manifeste de l'indépendance au Maroc, et en même temps il y a eu aussi la création de studios privés qui s'appelaient les studios Suissi, qui s'occupaient de la production qu'il y avait au Maroc, et à partir de 1958, de la production des actualités marocaines qui étaient diffusées dans les cinémas, avant les films. Et de 44 à 58, qui est la date du premier film marocain, qui a été réalisé d'ailleurs par quelqu'un qui n'était pas au cinématographique, Mohamed Ospor, auquel Ahmed Bouanani accorde un chapitre dans La Septième Porte. Il y avait que les films étaient principalement des commandes de divers ministères, soit des reportages, soit des documents à propos de la santé ou du tourisme. D'ailleurs, si c'est 12, Talfaya ou La marche d'un poète et 6 et 12, les premiers films qui sont réalisés en collectif d'une certaine manière, parce que il a effectivement été rapidement, disons, empêché de réaliser lui-même, parce que considéré comme étant de gauche, déjà parce qu'il avait une allure en fait bien particulière. Il est grand, il avait des cheveux longs et il ne mettait pas forcément de cravate. Donc dans un endroit où effectivement il était fonctionnaire, puisque en fait il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait faire du cinéma, c'était au centre cinématographique, il n'y avait pas de production privée. Donc c'était le seul endroit où il était possible de faire du cinéma. Et disons, lui en fait il était surtout écrivain, mais comme il écrivait en français, qu'il était dans un pays où la langue n'est pas le français. Donc seul le cinéma pouvait lui permettre de s'exprimer par l'image, dans un pays où peu de gens lisent. Ce Omar Ghannem a empêché Ahmed Bouhanani de réaliser ses films. Il l'a même exilé aux archives. Ce qui était une punition, en fait. Mais ce qui était pour mon père le meilleur endroit pour quelqu'un qui s'intéresse à la mémoire du Maroc. Et dans ses archives, il y avait ce qui avait été réalisé à l'époque du protectorat, ou du moins ce qu'il en restait, parce que les studios Suissi en fait sont fermés en 1968, c'est l'année d'ailleurs où il est relégué aux archives, et ces studios Suissi ont été fermés et je dirais pratiquement abandonnés. Ce qui était dedans a été abandonné. Et mon père a essayé de récupérer un maximum de choses dans cet endroit pour que la mémoire ne disparaisse pas. D'ailleurs, c'est tout le problème qu'on a avec les archives et avec les... D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un problème uniquement marocain, c'est un problème qui concerne toute l'Afrique. Un problème de conservation et de mise en valeur qui est vraiment très très difficile. Donc j'en reviens au film. Il a donc récupéré cette matière filmique ou photographique. Il a aussi restauré parce qu'elle était abîmée et il l'a étudiée. Par exemple, il disait que les Marocains filmés par les Français n'étaient jamais... il n'y avait pas de portrait, il n'y avait pas de visage qui était montré. Ils se sont toujours vus flous ou de loin ou une foule, mais pas d'individu qui est montré. Et d'autre part, ils ne pouvaient pas utiliser tout ce qui concernait, par exemple, la guerre du Rif qui a lieu dans les années 20. Et ça, c'était par contre l'organe, le Maroc, qui ne voulait pas entendre parler de cette guerre. Il ne pouvait pas utiliser cette matière-là. Et pour pallier en fait à cette disparition de la guerre du Rif dans le film, dans son film, il est allé filmer dans le Rif des hommes et des femmes qui ont vécu cette guerre et qu'il montre silencieux. Et en fait, c'est sa manière, d'une part, de pallier à cette absence de figure marocaine, de visage, et en même temps à cette absence de la guerre du Rif. Ce film était un film qui était à l'origine un poème qui s'appelle Mémoire 14. Alors, Mémoire 14, en fait, c'est le 14e siècle de l'Égypte, qui est le 20e siècle. Voilà, pour le titre, oui. Et c'était un poème qui était paru dans un recueil de poèmes qui s'appelle Les Persiennes, qui était sorti aux éditions Stucki en 1980.
Et ce film qui durait 1h30 a été sans arrêt censuré. Maintenant, je crois qu'il fait 25 minutes. C'est la version, on va dire, définitive. Et c'est vraiment un film de montage et de... Oui, de montage, déjà. Et à partir d'éléments historiques.
Avec un texte magnifique.
Qui voilà. Dit par la voix de, ouais. De Sfrewi. Ouais.
Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Que la terre enfante ou n'enfante pas, que les ruisseaux coulent de miel ou de sang, que notre regard s'aveugle ou s'arrête, notre mémoire est longue. Puisse-t-elle retrouver la cadence de nos 20 ans? Qui rançonnera cette légende de pacotille où des jeunes filles perdaient leurs chevelures dans les fontaines magiques? Qui rançonnera les matins légendaires où le ciel s'ouvrait par le ventre sur des cavaliers blancs? Année de la gazelle, année des sauterelles, année du sabre et du canon, année de la bonne saison. Notre sang garde la saveur de la légende. Voici les lieux, voici les hommes, voici le champ. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
comporte, comme on veut dire. Et c'est là où je reviens à cette histoire de la place du décor, c'est-à-dire que quand j'ai parlé de Narima comme étant une femme derrière l'homme, c'est-à-dire en tant que décorateur, le décor qui met en scène des choses qu'on ne peut pas dire par la langue, c'est deux femmes, enfin c'est deux têtes symboliquement qui portent leur mort, qui reviennent, qui portent leur mort avec des têtes en forme de orebia, en forme d'un gâteau qu'on appelle orebia, l'étrangère, un gâteau marocain, la marocain, mais enveloppé dans un papier aluminium et qui en partant un peu plus loin, elle se retourne sur le héros, elle se retourne, mais elle a toujours le même visage, un visage d'aluminium, un visage de miroir. Quand elle se retourne, elle a toujours cette orebia, cette étrangère qui est en porte ses morts qui reviennent dans ce pays où lui, notre héros, il cherche à sauver de la catastrophe, il cherche à sauver quelque chose, mais il a il y a le feu qui a pris tout.
Ça, c'est les quatre sources. Tu mets du temps là.
Il n'y a pas de fiction.
Oui, il
n'y
a pas de fiction.
Donc, en mémoire 14, il n'y a pas de fiction. Alors que dans les autres films et courts-métrages, il y a de la fiction. Comme tu as dit, le 4 sources, c'est la pure fiction.
Donc cette manière,
alors que Mémoire 14, c'est basé sur les archives et les photos. Archives filmées aux photos.
C'est que des matières existantes.
Oui. Voilà.
Sauf pour pallier à l'absence de la guerre du Rif, ces hommes et ces femmes, et aussi des architectures qui ont été filmées.
En silence. Oui. Voilà. D'accord. Oui, ce qui est un choix formel. Très puissant, quoi.
Oui.
Et qui est très simple aussi, quoi. Et qui est puissant par sa simplicité, pour exprimer cette mémoire qu'on ne veut pas faire remonter, quoi.
Dont on ne veut pas entendre parler.
Dont on ne veut pas entendre parler, là, cette guerre du Rif, quoi.
Et puis, on ne voit pas les images, on ne voit pas le récit filmique de la même manière quand on parle en français ou quand on parle en arabe. Alors que là, quand on voit les films d'Ahmed Bouanani, on parle au marocain. On parle dans la langue du marocain, avec un instrument français, on peut dire ça. Et donc c'est là où il y a un lien sur la mémoire, c'est aussi un travail sur la langue. Et il insiste à le dire, et même pour un peu... J'ai peut-être quelques paroles qu'il nous a laissées par rapport à la question de la langue. Est-ce que aujourd'hui des cadres qui sont bien placés, ou est-ce que des gens qui sont assez cultivés, quelle différence peut-on faire entre un analphabète ou un illettré? Il disait, nous devenons de jour en jour plus analphabètes que la veille. Nous ne savons plus nommer les choses, les plantes, les animaux, la gastronomie par exemple. Le cauchemar est vivant, qui pourrait donner aux ingrédients même leur nom, qui pourrait prendre des chiffres. Donc le travail qu'il faisait autour de la langue, c'est peut-être ça son exil à la fin de sa vie. C'est-à-dire que l'écriture est le fondement de tout travail d'un artiste. Et le travail sur la langue, c'est vrai que c'est la matière première, mais un travail vrai aussi. Que ce soit un travail vrai, mais pas un travail d'esthétique sur la langue, comme d'ailleurs Kateb en Algérie, c'est à peu près la même chose, c'est un travail en même temps dans l'intérieur même de la langue par un artifice extérieur ou par un médium extérieur qui est le français, parce qu'Ahmed Bouanani l'a toujours écrit en français.
Kateb Yassine.
Tout en étudiant la langue, dans sa profondeur et dans sa symbolique, la symbolique et la violence aussi, les violences symboliques qu'on trouve aussi dans les distinguos entre la langue française et la langue arabe. Donc c'est là où ça nous pose vraiment ces films que vous nous présentez là. C'est vrai que ça pose encore aujourd'hui une question: comment on regarde les films selon qu'on se positionne selon un regard français, ou que l'on les regarde comme étant marocain, sachant notre culture locale, sachant notre vocabulaire local et ses substantifs, ses racines.
Si tu vois les films de Buanani en entier, en filet, tu vas constater une chose, c'est la mémoire. Buanani, si tu vois tous ses films, il travaille sur la mémoire. Soit les dictons, soit les poèmes, soit les images idéalisées, rôles et tout ça. Donc, il est toujours dans la mémoire, il travaille sur cette mémoire qu'il n'avait pas. Parce que lui aussi, il a dit dans l'interview avec Ali Safi que il n'y avait rien avant l'indépendance. Donc lui, est-ce que c'est vrai qu'on n'avait rien ou il faut chercher ce qu'on avait. Donc il a, dans la mémoire 14, il a travaillé sur les archives des colonisateurs. Il a travaillé aussi sur les images dans plusieurs films. On voit toujours les dictons et les poèmes dans ces films. Mirage, Afifi, il parle toujours des acteurs qui ont influencé notre image, notre mémoire. Donc, c'est la mémoire. Et pour moi, maintenant, il est devenu une mémoire de cinéma marocain. Et avec ce livre, c'est vraiment un travail magnifique. Donc, il reste toujours parmi nous. Et on ne pourrait pas effacer cette mémoire historique et la mémoire de Buanani. Donc, lui, c'était, même dans ses écrits à souffle, ses poèmes à souffle, toujours à la recherche de la base. On est sur quoi? Parce que on n'avait rien après. Même on cherchait, on n'avait même pas l'armée, on n'avait rien du tout. Et la politique s'est faite entre 56 et 63 avec l'arrivée de Hassan II. Et ça a changé, ça a donné autre chose. Et l'histoire est récente et bien connue.
Et pour faire un petit décrochage, parce que tout à l'heure on en a parlé un peu, puis moi ça m'intéresse, on a parlé de l'hôpital tout à l'heure. C'est un de ces romans qu'il a écrit, que j'ai eu le plaisir de lire et de relire, parce que c'est fabuleux, quoi. Et moi, je sais pas ce roman par rapport à la question de la mémoire, comment il se situe, mais moi, alors, la curiosité que j'avais, c'est comment il a amené à écrire ce roman qui est à la fois complètement... fantasmagorique, et puis qui est ancré dans une réalité aussi qu'on sent derrière, et puis qui parle à un endroit où je pourrais dire, même si c'est difficile, ce mot est ambigu, mais j'ai l'impression qu'il parle du peuple marocain à cette époque, ou qu'est-ce que... Je suis avide d'en savoir plus.
Alors, l'hôpital, c'est vrai que c'est une métaphore, en fait. Enfin, on peut le voir comme une métaphore de la société marocaine. Donc c'est un livre qui a été édité en France en 2012, aux éditions Verdier, et qui est paru pour la première fois en 90. Et c'est un livre qu'il a écrit en 87, mais qui est inspiré d'un événement qu'il a vécu réellement. En 68, il a eu la tuberculose. D'ailleurs, en fait, à l'époque où il allait chercher dans les studios suisses, qui étaient... dans les courants d'air et qui était humide, où il y avait beaucoup d'humidité, il a eu la tuberculose à ce moment-là. Il a fait un séjour à l'hôpital pour les tuberculeux. Et donc, il y a beaucoup d'inspiration de cette période où il a vécu au sanatorium à Rabat, à Moulay Youssef. Par contre, il a écrit le récit une vingtaine d'années plus tard, que j'ai retrouvé sur deux cahiers en 87 et en 89.
D'accord, ok. Ouais, il l'a écrit 20 ans plus tard, il est édité 20 ans encore après.
Non, il a été édité en 90. En fait, c'est une réédition.
C'est une réédition oui. 2012. D'accord, ok.
Et il y a eu une réédition chez Deka Éditions au Maroc et une réédition chez Verdier.
D'accord.
En fait, volontairement, je voulais qu'il y ait les deux, parce que une édition française coûterait trop cher au Maroc. Donc il était nécessaire qu'il y ait une édition marocaine, en dirham, d'ailleurs que je voulais le moins cher possible, qui était à 40 dirhams, et l'édition Verdier en France.
D'accord. Et par rapport à tout ce travail qui ressort de Buenani, parce qu'on arrive à la fin, donc juste pour parler un peu au présent, comment il est diffusé au Maroc, comment il est reçu, puisque ça ressort pas mal depuis quelques années, quelle rencontre ça se passe au Maroc, quoi, de ce travail. Est-ce qu'il y a des espaces où ça se rencontre? Est-ce qu'il y a des, parce que on sait qu'il y a des problématiques complexes au Maroc pour diffuser, pour montrer des choses. Donc est-ce qu'il y a un peu une rencontre avec le public marocain à certains endroits, ou est-ce que tout reste à faire?
Il y a des choses qui se font et puis il reste toujours à faire. Il y a par exemple la Cinémathèque de Tanger a beaucoup montré. A beaucoup aidé à montrer le travail. Puis c'est un lieu aussi où les choses sont montrées. Moi, de mon côté, moi, je suis plus dans le domaine de l'art, dans les galeries, où en fait j'ai lié mon activité au fait de travailler sur les archives ou sur le fait de travailler sur... ou de montrer le travail de mon père et de ma mère. Du coup, en fait, j'ai un peu lié les deux et je montre aussi le travail. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que je suis pas la seule. Il y a aussi donc Ali qui a fait le film, Ali Safi qui a fait le film, qui j'espère repassera, qui est déjà passé hier. Mais il y a aussi l'occasion en fait aussi de voir les films donc à Marseille aujourd'hui, ouais. Au MUCEM, donc à 17h il y a le Mirage aujourd'hui, et demain à 11h30 il y a les trois courts métrages qui seront montrés, donc les quatre sources, qui est en arabe, avec une langue marocaine très belle, qui est d'ailleurs en plus avec la voix de papa. Il y a maman qui joue dans le film aussi, joue le rôle d'une des fées, et Mémoire 14 qui passe, qui lui par contre est en français. En fait il y avait une version arabe, mais elle a été interdite à ce moment-là. Et ensuite 6 et 12, 68, qui est sur Casablanca, qui est vraiment un très très beau film. Et lui, c'est un film, disons, avec une bande sonore musicale, il n'y a pas de paroles.
Okay. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de voir d'autres films encore, en tout cas j'espère. En tout cas nous, on a envie à Marseille d'essayer de construire des moments pour voir tout ce travail qui est assez fabuleux, quoi. Donc peut-être un dernier mot avant qu'on termine. En tout cas, merci déjà à vous de nous avoir offert ce temps et toute cette belle histoire. Je ne sais pas, Ahmed.
Mon dernier mot, c'est qu'il faut montrer ces films. Peut-être l'occasion que le livre sorte, peut-être qu'il y aura avec le film de Ali Safi en même temps. Tu vois, c'est l'occasion de, ici ou ailleurs, ça serait une autre occasion de parler de Buenani. Il faut toujours en parler, Buenani.
Le livre, on a une idée de quand est-ce qu'il sortirait?
Sortir avant la fin de l'année 2017.
Au Maroc, en France?
Au Maroc d'abord.
Au Maroc d'abord, et ensuite en France. C'est bien ça comme ordre.
Ah, ensuite, je ne sais pas, mais disons, il paraît d'abord dans une édition au Maroc. Oui.
D'accord, bah, écoute, j'espère qu'on saura tenu au courant de tout ça. Ben, merci à vous, merci à Walib. C'était une émission Enquête de cinéma. On espère vous retrouver pour la prochaine émission en février. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.
Aussi nombreuses que les brins que je file sont mes peines, et aussi longues que le fil que déroulent mes doigts. Ma vie durera ce que dure une quenouillée pleine, car mon cœur est aussi entouré de douleurs qu'une quenouille est gonflée de laine. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
حديثنا قياس مش حسيرة تعفس عليها الناس كيف ما جلال هارون الرشيد وجعفر البركي قالوا يا وزير دبر ولا راس كتير
قالوا يا سيدي انت لازم تبني قصر الدهشة باش يبقى ذكرك على كل لسان وعمل هارون الرشيد نصيحة وزيره وجاب الخدامة والقواسة والصنايعية وبدا يا سي ابني وبدا يبني ويعلي حتى وصل للبني للسماء وبعد سنين ومني مشى هارون الرشيد يتفقد بالحية والسية هو حط ساقو عالدرجة الأولى بالقصر كلها وبدا يمين 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 حتى تعلي يا جماعة صليوا على النبي يا
سلام على زين المرسلين
يرجع بيكم حديثنا واخبرنا للباعي احمد
J'ai dit au vent, tu parcours le monde par les allées et par le monde. N'as-tu pas vu ce que j'ai vu? Le vent s'est éloigné en hurlant. Il ne m'a pas répondu.
أكثر.
والمقام صاحب الملك والزمام، كيف وجدتم باريس؟
ملا دنيا، ملا ناس، ملا امتينا شيخ كبير، فيها كل ما تطلب. الذهب يا شيخ، الجوهر، الزرنيخ، النحاس، عندهم يا شيخ خيط كيف التل، يسميوه التليغراف. انت وينك يا شيخ الاسلام؟ وعندهم قروصة تمشي بالفحم، الماء اسمها شمندي فيه، وبرشا محامل ومكنات الاحرير. مالا انت وينك يا شيخ الاسلام؟ انا شيخ حشيد، الناس متسميني اول حاج قروب وانا بزو معنا.
من عاد اللي يوصل حتى اللي مات، قال بي ابني في صاية جديدة في المحمدية، قال المصطفى خصنا دار.
خصنا دار؟ نعم، نحب نبني صاية جديدة. أمر سلاطين طاعة سيدي، لكن وين الفلوس؟
زيد في المشبه.
الله يبارك سيدي. أما
وإذا كان ما يزيش تسلف من عدل فرانسيس.
حاضر.
Thank you.
قلب شكرا سيمان جبت واجوك
دولة الفرنسيس تعطيك مهندس باش يعمل بيانو للسرايا والتليغراف
زاد مصفى خذنا دار في الزبلة والخروبة وزاد في المجبة وزاد في العشر
وباع الصابة صابة القمح والزيتون وسي البيت يجبد بالخزنة وكيف ما تقول ناس بكري اجبد ما ترد الجبال تتهب حتى لين فدت الناس
Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent. Voici les lieux, voici les hommes, voici le chant. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent. Nous avons levé nos tentes, rassemblé nos troupeaux. Nos chameaux sont bardés, nos chevaux libres d'entraves. Notre mémoire pétrifiée. Heureux celui dont la mémoire repose en paix.
Years they have lived together, or rather they have cohabited.
They have been living here together more than 100 years. They have learned many things about one another. Mutual understanding was quite easy. They spoke to each other in this language.
Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
Regardez-les, ces femmes, ces hommes, ces enfants.
Look at these men, these women, these children, Arabs, Kabyles, Jews, Christians. For over 100 years they have lived together, or rather they cohabited.
They have been living here together more than 100 years. They have learned many things about one another. Mutual understanding was quite easy. They spoke to each other in this language. Or in this way. Such means will be used later. Yet, the best way to make oneself understood was certainly that once invented by Colonel Lemire. If you feel distressed, tormented, and wondering how you could further extend for a long, long time such a joy, the answer is quite simple. I wake up early in the morning and I head for the polling station. I have my voting card registered. I take 2 ballot papers, one is white, the other is purple. I get into the polling booth. Here, no one can see me. I put the white paper in the envelope, then I tear and throw away the purple one. On my way out, I put the envelope in the ballot box. I voted yes. I'm happy. I'm a person with full French status. You have fulfilled your duty. Now, rejoice.
ذاك الوقت
Torrents of tenderness and kindness will then flow. Presents and presents will be distributed. Wooden arms and legs were offered to those who lost them in the war against Germany. This is Ali. He lost his leg in Verdun. France substituted it with another one here in his village. There were also plenty of ribbons to better tie and strengthen the friendship. Children too got their share of tenderness. Some touched them, others caressed and tickled them. Of course, there were those who gave the evil eye to children. Some were given small coins. After the ceremony, everybody sent back home.
On y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça, sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond.